Et désormais place au journal d'Haïti avec vous Anne Cantner.
Bonjour Simon, bonjour à tous. Nous irons en Haïti dans un instant auprès de familles dont les enfants sont privés d'école depuis des mois. Les écoles de Port-au-Prince fermées à cause de la violence des gangs, elles sont de plus en plus nombreuses à ne plus accueillir d'élèves. Notre dossier du jour en Équateur aujourd'hui, après deux mois d'état d'urgence, il y a eu beaucoup d'arrestations, beaucoup de saisies de drogue, mais dans les faits, les narcotrafiquants sont peu affectés, nous le verrons. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer au programme. Serge Massot, on va parler de la campagne sucrière, elle est censée commencer aujourd'hui en Guadeloupe.
Oui, mais l'intersyndicale appelle les producteurs à ne pas couper leur canne tant que les négociations sur le prix de la totte de canne n'auront pas abouti.
A tout à l'heure, dans un quart d'heure environ. Merci à tous d'être avec nous.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'avenir d'Haïti, de nouveau devant le Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. Une rencontre à huis clos, selon Radio Télémétronome. Il faut dire que la situation ne s'améliore pas, loin de là. Le Conseil présidentiel de transition est enfin formé, plus tard que prévu, et sans deux des mouvements politiques qui avaient pourtant signé l'accord de la semaine dernière. Les gangs font toujours la démonstration de leur mainmise sur Port-au-Prince et ses environs. Les violences s'étendent même. Toujours selon Radio Télémétronome, à Pétionville, La Boule et Thomassin. Le couvre-feu a été prolongé de 3 jours supplémentaires après des violences et des pillages. Une partie du port, notamment, a été mise à sac ce week-end. Plusieurs entrepôts dévalisés, y compris des conteneurs de l'UNICEF, c'est-à-dire du matériel d'aide pour les enfants et pour leur mère. Et ce matin, l'électricité est coupée dans des quartiers entiers à cause de sabotage. L'une des conséquences de ces violences quotidiennes, c'est que de très nombreuses écoles sont toujours fermées, soit pour des raisons de sécurité, soit parce qu'elles abritent des personnes déplacées. Alors comment les parents vivent-ils cette situation ? Notre correspondante à Port-au-Prince, Marie-Andrée Bélange, est allée leur poser la question. Reportage.
Dans la capitale haïtienne, certains établissements scolaires n'accueillent plus d'enfants depuis plusieurs mois, mais des déplacés, ceux qui fuient la fureur des gangs armés. Mackinson est père d'une petite fille qui est à l'école primaire.
Presque toutes les écoles sont fermées dans la capitale alors que les autorités n'ont même pas communiqué pour annoncer ces fermetures. Mais la situation oblige les responsables des écoles à prendre cette décision. Comme dans d'autres familles, ma fille ne va plus à l'école et on ne sait pas combien de temps ça va durer.
L'école de sa fille se trouve dans le centre-ville de Port-au-Prince, une zone qui, selon lui, n'inspire aucune confiance.
Ce sont les gangs qui occupent le centre-ville depuis quelques temps. À tout moment, ils peuvent envahir la zone où tu te trouves. Récemment, la police a affronté des bandits dans l'aire du Champ de Mars. Si quelqu'un n'est pas dans le périmètre de sécurité établi par la police, il peut être victime de n'importe quoi. Par mesure de prudence, les gens fréquentent donc de moins en moins cette zone, au cas où les gangs décideraient de mettre le centre-ville sans dessus-dessous, comme ils l'ont déjà fait les week-ends derniers.
Ce n'est que cette semaine que l'école de sa fille a décidé de reprendre la programmation en ligne.
Ils ont commencé cette semaine car même les professeurs se trouvent dans des situations difficiles. Ils habitent des quartiers contrôlés par des bandits. Ils ont été contraints d'abandonner leur maison pour échapper à leur fureur et aux balles. Donc c'est une situation qui affecte tout le monde, les enseignants, les enfants et même l'établissement. C'est une école religieuse qui a essuyé des balles perdues. Les sœurs n'arrivent pas à faire fonctionner l'établissement dans un tel contexte. Voilà la situation que nous subissons dans le pays.
Car l'habite le quartier de Sainte, au nord de la capitale haïtienne, où depuis quelque temps, la situation est compliquée pour les résidents. Le déferlement de la violence des gangs a causé la fermeture des écoles de la zone, raconte Carl, qui vit avec sa petite nièce de 8 ans.
Elle ne va plus à l'école. On ne sait pas quand les gangs peuvent envahir la zone. C'est trop difficile. Récemment, des affrontements y ont éclaté. Ma maman, mon petit frère et ma nièce ont été obligés de se rendre chez mon autre frère. On ne sait plus à qui s'adresser. On ne peut pas en parler à l'État. On ne sait vraiment pas quoi faire.
À la maison, sa petite nièce n'est plus la même.
Elle pense à ses camarades, à ses journées en classe. Elle croit que les écoles fonctionnent et qu'on a décidé de ne pas l'y envoyer. Parfois, elle nous demande pourquoi elle ne va pas à l'école. On essaie de lui expliquer la raison avec des mots simples. À la maison, on fait de notre mieux pour travailler avec elle, lui permettre de s'amuser quand même. Mais on ne peut pas lui offrir une ambiance comme à l'école, car nous aussi, on est sous pression.
La petite nièce de Kerl, qui vivait auparavant dans le quartier de Carrefour-Feuille, n'a jamais eu la chance de boucler son année académique ces derniers temps, explique le jeune homme qui fait de la musique.
Cela m'affecte beaucoup, c'est insupportable. Je me sens impuissant. Regardez la situation du pays qui se dégrade de plus en plus, me ronge de l'intérieur. Et c'est tout cela qui pousse beaucoup de jeunes à quitter le pays dans le cadre du programme humanitaire des États-Unis ou à trouver refuge au Nicaragua. C'est parce qu'ils n'en peuvent plus.
À quand la reprise des cours dans les écoles à Port-au-Prince? Aucune date n'a été retenue pour l'instant. Pendant ce temps, le ministère de l'Éducation appelle à protéger les écoles face aux actes de vandalisme dont elles ont été la cible, tout comme des bureaux du ministère. Marie-André Bélange, Port-au-Prince, RFI.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Nous sommes à Cuba. Les voix que vous entendez sont celles de manifestants. Elles sont rares, très rares dans le pays. Mais hier, des habitants du Sud-Est ont dénoncé les coupures d'électricité à répétition à Rimlipold.
Oui, selon le site d'information 14 et Meio, les manifestations se sont produites à Santiago, dans le sud-est de l'île. Les gens criaient, on pouvait l'entendre, corriente y comida, de l'électricité et de la nourriture. La population est confrontée à d'importantes coupures d'électricité et des retards de livraison du panier de base, selon 14 et Meio. Après que les premières photos et vidéos de cette manifestation ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, le gouvernement, comme à son habitude, souligne le site d'information, a coupé le signal Internet pour empêcher la publication d'autres contenus de ce rassemblement. Les slogans entendus et rapportés au site d'information traduisaient aussi le mécontentement à l'égard des autorités. Ainsi, certains manifestants criaient « Abat le communisme » ou encore « Abat Díaz-Canel », le nom du président cubain.
Le président qui n'a pas tardé à réagir, Arthur.
Exactement, et c'est à lire dans Granma, journal officiel du Parti communiste, qui pour une fois a décidé de ne pas occulter cet acte d'opposition au gouvernement, selon Miguel Díaz-Canel, cité par Granma. Plusieurs personnes ont effectivement exprimé leur mécontentement concernant le service électrique et la distribution de nourriture, mais le président cubain, au lieu de reconnaître quelconque responsabilité, a dénoncé, je cite d'après Granma, « la propagande des ennemis de la révolution cubaine en vue de provoquer le chaos ». Pour le gouvernement cubain, des terroristes basés aux États-Unis profiteraient des tensions suscitées par les pannes d'électricité et des pénuries alimentaires pour déstabiliser le pays qui se trouverait dans cette situation difficile uniquement à cause de la politique implacable d'asphyxie économique du gouvernement des États-Unis contre Cuba, selon Díaz-Canel. Commentaire de Washington, Anne, à travers un message sur X de l'ambassade des États-Unis à Cuba, nous appelons le gouvernement cubain à respecter les droits des manifestants, ce qui a provoqué une réaction immédiate du ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, qui a exhorté les États-Unis à ne pas, je cite, « s'ingérer dans les affaires intérieures du pays ».
RFI à Cuenca, 104.9 FM.
Achim Lipold, on vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de votre revue de presse, mais d'ici là, notre dossier du jour en Équateur.
He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las fuerzas.
C'était il y a deux mois, le président décrétait l'état d'exception, l'état d'urgence contre les narcotrafiquants après l'évasion de l'un des plus puissants chefs de gang, des jours de chaos marqué notamment par une prise d'otage en direct sur une chaîne de télévision de Guayaquil. Deux mois plus tard, l'action du président Noboa est largement soutenue par la population à 80%. Et on va voir avec notre correspondant Éric Sanson ce qu'elle a apporté comme résultat concret.
Sur le papier, les chiffres sont impressionnants. Près de 100 000 opérations ont été lancées contre la délinquance, 75 tonnes de drogue saisies et des réseaux de blanchiment de narcodollars et de corruption démantelés. De quoi rassurer de nombreux habitants, comme l'étudiante Renata Manzanuevas.
Je crois qu'il y a du mieux. Je me sens plus en sécurité en ville, en particulier avec le couvre-feu. Quand on sort, tout le monde rentre chez lui avant minuit. On parle moins d'attaques et de vols, probablement parce que la police est partout dans la rue et je me sens plus tranquille qu'en janvier.
Un bilan que partage le colonel Mario Pazmiño, expert en sécurité, mais avec des bémols.
Les forces armées ont en grande partie récupéré le contrôle des prisons et d'une bonne partie du territoire. Mais il reste beaucoup à faire. La présence dissuasive des militaires et de la police n'est pas constante ni quotidienne sur l'ensemble du territoire national. Et donc, le crime organisé continue d'agir. On constate une hausse des enlèvements et des extorsions que l'on appelle aussi les vaccinations.
Au-delà des commerçants et des industriels, les extorsions touchent également des citoyens ordinaires, touristes en vacances, professeurs et même des artistes comme le chanteur Mauricio Núñez.
Il y a des personnes qui appellent les artistes, qui nous menacent pour nous extorquer, nous vacciner, comme on dit vulgairement. Moi, j'ai été vacciné avec mon frère. La première fois, j'ai payé. La deuxième fois, j'ai porté plainte et ils n'ont pas rappelé. Ils demandaient 1 000 dollars mensuels.
Parmi les plus de 10 000 personnes arrêtées depuis début janvier, seules 500 ont été inculpées pour terrorisme. Estimé à quelque 20-25 000 hommes armés, le potentiel humain des gangs n'a donc été que légèrement entamé. Une réalité qui commence à percer, selon l'analyste politique Gustavo Hisch.
Il commence à y avoir des fissures dans l'approbation, pourtant toujours majoritaire dans la population, de la gestion du président Noboa en matière de sécurité. En effet, il est évident que dans des villes comme Guayaquil, la délinquance organisée est toujours active.
Depuis le début de l'année, quelque 80 000 Équatoriens et Vénézuéliens ont quitté le pays pour tenter leur chance aux États-Unis et fuir une crise économique sévère, selon la compositrice Paulina Iniguez.
Quand un pays est paralysé, tous les secteurs en souffrent. Mes amis musiciens me disent qu'ils ont perdu 70% de leurs revenus.
Ayant besoin de remplir les caisses de l'État et de payer sa guerre contre les trafiquants, le président Noboa a réussi à faire approuver des hausses d'impôts comme la TVA, qui passera de 12 à 15% le 1er avril. Gustavo Hisch.
Les mesures économiques ont été prises alors que le pays est dans un état de conflit armé interne et la population en état de choc. Le gouvernement a fait passer ses hausses d'impôts en tirant parti des circonstances extraordinaires en matière d'économie et d'insécurité.
Et en attendant, la population s'adapte à la nouvelle réalité d'un pays devenu l'an dernier le plus violent d'Amérique latine. Renata Manzanuevas.
J'ai mis au point une routine de sécurité. J'ai un faux portable, il est à moi, mais il ne marche plus. Quand je sors, je le mets bien en vue et je cache le vrai au fond de mon sac. Je fais pareil avec les cartes de crédit, je les dissimule et je mets juste un peu de liquide dans le porte-monnaie.
N'ayant jamais caché son désir de se présenter à la réélection, le président Noboa a prolongé l'état d'urgence et la présence des militaires dans les prisons. Il mise aujourd'hui sur le succès du référendum du 21 avril prochain qui propose de durcir la législation anti-délinquance. Éric Sanson, Quito, RFI.
Un reportage de notre correspondant en Équateur. On vous retrouve à présent, Achim Lipold, pour lire la presse du continent. Aux États-Unis, la Cour suprême se penche aujourd'hui sur un dossier délicat, celui de la désinformation.
Oui, la plus haute instance judiciaire du pays doit décider jusqu'où le gouvernement fédéral peut aller pour combattre la publication des fameuses fake news sur les réseaux sociaux. A-t-il le droit d'obliger les plateformes numériques de retirer un contenu ouvertement mensonger, comme par exemple les affirmations de Donald Trump, selon lequel l'élection de 2020 lui a été volée? D'après le New York Times, qui est au cœur de cette affaire, eh bien, c'est ni plus ni moins le sacro-saint premier amendement, à savoir la liberté d'expression. Tout est parti en fait d'une avalanche de communications émanant de fonctionnaires de l'administration Biden qui ont exhorté les plateformes à supprimer les messages portant sur des sujets tels que les vaccins, sur le coronavirus ou des allégations de fraude électorale. L'année dernière, rappelle le New York Times, une cour d'appel fédérale avait déjà sévèrement limité les mises en garde du gouvernement contre la désinformation. Anne.
La désinformation, une arme très efficace de l'ancien président Donald Trump dans sa bataille pour reconquérir la Maison Blanche. Mais il dispose aussi d'un autre outil important.
He always goes like this. And then... There's a stair right there, right? Then he starts.
L'enregistrement que vous venez d'entendre date du mois de février dernier. À un dîner très formel, Donald Trump, en campagne, imite son rival, le président Joe Biden, et ça marche donc. Harim, la presse souligne cet atout particulier du candidat républicain, l'humour qu'il ajoute à ses meetings.
Exactement, ses discours sont pleins d'anecdotes drôles, comme on vient d'entendre, enfin drôles d'une certaine manière. Ces anecdotes font rire le public, on l'a entendu, Anne, et c'est ce qu'explique aussi le site Politico. Mais c'est un humour particulier, il vise le plus souvent à ridiculiser l'adversaire, donc à le rendre moins crédible. L'autre objectif de ces blagues savamment dosées, c'est aussi, selon Politico, d'humaniser Donald Trump et de rendre ses propos souvent vulgaires et violents, finalement acceptables auprès de son public.
Enfin, Rim, on va se diriger vers le Brésil pour parler de la déforestation en Amazonie. Elle a baissé par rapport aux années précédentes.
Exactement, c'est à la une du journal Le Globe. La déforestation au cours des deux premiers mois de l'année a atteint les niveaux le plus bas depuis 6 ans, selon l'Institut Amazon. Selon le quotidien, entre janvier et février 2024, presque 200 kilomètres carrés de forêt ont été abattus, ce qui représente toutefois une superficie équivalente à celle de Salvador de Bahia, la 4e plus grande ville du pays. C'est une bonne nouvelle pour le président Lula, qui a fait la lutte contre la déforestation une de ses priorités politiques. Lula, qui va d'ailleurs réunir pour la première fois dans cette année tous ses ministres aujourd'hui autour de la table pour leur demander d'être plus efficaces. Le président brésilien fait face à une chute de popularité et d'après Folha de São Paulo, il a décidé d'augmenter la pression sur son cabinet dans l'objectif d'améliorer les chiffres, notamment de l'économie. Anne.
Achim Lipold, votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Serge Massot.
Bonjour Anne.
En Guadeloupe, le début de la campagne sucrière est dans l'impasse.
Oui, l'usine sucrière de Gardel est bloquée depuis ce matin par le collectif des planteurs. Pour eux, les négociations sur le prix de la tonne de canne ne sont pas satisfaisantes. Alors qu'en face, les industriels, l'État et les collectivités locales insistent pour que la campagne démarre aujourd'hui. Pascal Pétrine de Guadeloupe La Première.
De connexion avec nos confrères de La Première qu'on va essayer de retrouver dans un petit instant pour la suite de ce journal et parler donc de la campagne sucrière qui est dans l'impasse en Guadeloupe. Mais sachez qu'à 13h30, temps universel, vous retrouverez Pascal Paradou pour son émission de Vive Voix. Avec une question aujourd'hui, le français est-il la langue du droit? Question posée dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. Tout ça, c'est dans quelques minutes, mais avant cela, donc, on va retrouver Serge Massot. Serge, vous nous parliez de la campagne sucrière en Guadeloupe.
En Guyane, le maire de Maripasoula veut recompter lui-même sa population. Selon l'INSEE, le nombre d'habitants de cette commune, située dans l'intérieur de la forêt guyanaise, est en chute libre, mais ce n'est pas ce qu'il constate sur le terrain. Et pourtant, la dotation de l'État à sa commune risque de considérablement baisser. Le maire de Maripasoula, Serge Anelli, est au micro d'Emma Chevalier de Guyane La Première.
2020, plus de 13 000 habitants. Aujourd'hui, 9 177 habitants. On est en chute libre. Tous les jours, il y a des gens qui construisent. Les maisons, on les voit un peu partout. Il y a du monde dans la ville. Et malgré ça, on me fait comprendre que je perds du monde en termes d'habitants. Là où l'INSEE a fait le recensement cette année, donc en janvier, moi, début mai, je refais le recensement pour comparer. On vous dit qu'il y a 2 500 en forêt. Ça, c'est chiffré. Ils le mettent au niveau de la population. Mais c'est faux.
Et puis en Martinique, depuis les violences urbaines de la semaine dernière à Fort-de-France et l'incendie d'une borne de fibre optique, certains quartiers sont privés d'internet et de téléphone. Témoignage de cette commerçante obligée d'en revenir au papier et au crayon.
Toutes nos caisses, c'est internet. Les clients nous engueulent. La carte bleue fonctionne une fois sur deux. On a une caisse manuelle, une calculatrice et on revient à l'ancien temps. On a pris du monde en plus parce que 2 personnes le matin, c'est pas possible. Entre celle qui écrit, celle qui compte et celle qui remet la monnaie, il faudra débourser pour l'informaticien. Tout reformater, les 3 caisses. Et on n'avait pas dans notre budget de mars prévu ça du tout.
Des propos recueillis par Ronan Bonnec de Martinique La Première. Bonne journée sur RFI.
Merci Serge Massot et toutes nos excuses à nos auditeurs. Vous l'aurez remarqué, on a eu un petit problème technique. Serge Massot a poursuivi son journal de l'Outre-mer Sans vous, sans auditeur, malheureusement, on n'a pas pu le lui signaler. Vous aurez entendu les dernières explications à propos de la Guyane et on aura l'occasion de reparler de la campagne sucrière en Guadeloupe. Merci à tous d'avoir été avec nous. 13h30, temps universel, tout de suite vous retrouvez Pascal Paradou pour De Vive Voix. RFI.